Terre au Carré, je m'appelle Nina, j'ai 6 ans, j'ai un arbre qui est dans mon jardin, qui est très vieux, qui est magique. Avec mon frère, je vais pique-niquer plein de fois. Au revoir, la Terre au Carré.
Oui, bonjour Mathieu Vidard. En ce moment, le nucléaire est revenu sur le devant de la scène comme une solution au changement climatique et à la transition énergétique. Mais ce dont on n'entend jamais parler, ce sont des rejets des centrales nucléaires qui déversent leurs produits chimiques dans les fleuves. Ici, près de chez moi, c'est dans la Loire. L'association dont je suis membre a totalisé les rejets des deux centrales nucléaires de Belleville-sur-Loire et d'Ampierre-en-Burlie. Ces deux centrales ont déversé dans le fleuve en 2020 plus de 480 tonnes de polluants. Des polluants comme des chlorures, du cuivre, du zinc, de l'acide borique, des phosphates, de l'azote, des détergents. Et bien sûr aussi des rejets radioactifs liquides comme le tritium et le carbone 14 qui libèrent des milliards de becquerels dans l'eau. Les chiffres sont bien officiels, ce sont ceux d'EDF, issus des rapports annuels de chaque centrale.
Et bonjour Gilbert d'Orléans. Elle est géniale la petite jeune que vous avez aujourd'hui là. On peut prendre invité d'autres du même acabit, au sens gentil du terme, parce qu'avec des jeunes comme ça, on est, nous, les anciens, plus trop inquiets pour ce qui va leur arriver, si on leur laisse quand même un petit peu de faire entendre et surtout un peu plus de pouvoir. Voilà, à très bientôt. Au revoir.
Bonjour, c'est Gisèle de Montargis. Je téléphone par rapport aux arbres. Le problème qui se pose à l'heure actuelle dans le monde, c'est la présence du CO2 partout. Il faut essayer de le faire disparaître. Ce sont les arbres qui mangent le CO2 en principe. Eh bien, dans la région du Loiret et du Cher, on abat au bord des routes, par exemple l'ancienne Nationale 7, on abat à une distance de 10 mètres à peu près de la route pour qu'on ait l'impression qu'il y a une forêt. Les arbres par derrière, on vend le bois. Et qu'est-ce qu'on met à la place? Des panneaux photovoltaïques. Alors, les panneaux photovoltaïques, je pense qu'ils ont besoin de CO2 pour être construits. Donc, il n'y a plus de bois et après, il y aura plein de CO2. Mais on aura chaud. Au revoir.
Bonjour, je m'appelle Clément Martin Cochet, j'habite dans le Nord-Isère. Aujourd'hui, on parle des centrales, et ben ça tombe bien, nous on connaît bien ici, on habite entre deux centrales nucléaires. Et du coup, avant d'en remettre plus, j'aimerais bien qu'on demande leur avis aux habitants qui vivent au pied de ces fameuses centrales. Et nous ici, c'est vraiment horrible d'avoir ça en paysage, la centrale du Bugey et la centrale de Malville. C'est un nombre de véhicules énorme tous les jours, plus de 3000, c'est une énorme pollution. Le minerai vient du Niger, c'est en rien local. Ça demande des mines pour l'extraire, qui est énormément énergivore. C'est un secteur qui pollue énormément les mines. Et on nous parle d'énergie décarbonée, c'est n'importe quoi. C'est un puits Afrique total. Nous ici, les gens qui travaillent à la centrale nous le disent, c'est un gaspillage d'argent énorme, des incidents au quotidien, c'est n'importe quoi. Face à ça, quelle solution? Pas grand-chose. Devenir paysan, prenez vos pioches et vive la décroissance. Allez, bonne journée à tous, courage.
Le répondeur de la Terre au Carré, 01 56 40 45 45.
Et avant de tous prendre nos pioches pour devenir paysans, eh bien on va quand même se poser la question de savoir si on peut encore être anti-nucléaire à l'heure de la lutte contre le réchauffement climatique. Depuis quelques temps, vous avez observé certainement un étonnant retour en grâce du nucléaire. Alors que le souvenir de l'accident de Fukushima s'estompe peu à peu dans les mémoires, eh bien la crise climatique semble avoir redonné un coup d'élan aux défenseurs de l'atome en parvenant même à convertir d'indécrottables anti-nucléaires historiques. Si le nucléaire n'émet pas de CO2 directement, peut-on pour autant le considérer comme étant propre et viable sur le long terme pour la planète? Eh bien c'est le dossier de l'émission en partenariat avec l'Obs qui publie un dossier aujourd'hui sur le sujet. Et avec nous pour en parler, Morgane Bertrand, François-Marie Bréon et Yves Marignac. Bonjour à
bonjour.
Tous les trois.
Bonjour.
Bienvenue Morgane Bertrand, vous êtes journaliste à l'Obs, autrice donc de ce dossier qui sort donc aujourd'hui dans les kiosques. François-Marie Bréon, vous êtes climatologue, chercheur au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Vous êtes président de l'AFIS, c'est l'association française pour l'information scientifique. Vous faites partie du comité de soutien de l'association Patrimoine nucléaire et climat et vous êtes le co-auteur de l'Atlas du climat. C'est aux éditions Autrement. Et puis enfin Yves Marignac, vous êtes le porte-parole de l'association Négawatt qui promeut la réduction de nos consommations d'énergie et et vous êtes responsable du pôle d'expertise nucléaire au sein de cet institut. On va donc se retrouver dans un instant avec déjà de très nombreux messages, réactions des auditeurs sur les réseaux sociaux, la page de la Terre au Carré et l'application France Inter où vous nous avez déjà laissé vos notes vocales. 14h30, Camille passe au vert. Bonjour Camille Cronier.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
Un tour au Sénat.
Oui, je suis allée parler maltraitance et bien-être animal avec les sénateurs qui ont adopté définitivement ce matin une loi sur le sujet.
Et voilà pour le sommaire de cette émission réalisée par Valérie Ayestara et préparée par Chantal Le Montagné avec Michel Bézikian à la technique.
Mathieu Vidard, la Terre au carré. Sur France Inter.
Pour garantir l'indépendance énergétique de la France, pour garantir l'approvisionnement électrique de notre pays et atteindre nos objectifs, en particulier la neutralité carbone en 2050, nous allons, pour la première fois depuis des décennies, relancer la construction de réacteurs nucléaires dans notre pays et continuer de développer les énergies renouvelables.
Voilà, on le reconnaît à la voix, c'était le 9 novembre dernier lors de son allocution, le président de la République, avec cette question donc aujourd'hui dans la Terre au Carré, est-ce que le nucléaire peut nous sauver face au réchauffement climatique alors que justement le nucléaire opère un retour en force depuis quelques semaines dans l'espace à la fois politique et médiatique. Morgane Bertrand, vous qui êtes justement la co-autrice de ce dossier de l'Obs qui sort aujourd'hui en partenariat justement avec la Terre au Carré, vous êtes intéressé à cet étonnant retour finalement du nucléaire. Il y a un bon alignement des planètes là, semble-t-il.
Hein, alignement parfait des planètes. Ouais. Avec, bon, d'abord, il faut parler de l'opportunité politique qui se présente aujourd'hui, puisque le nucléaire s'est invité dans la campagne présidentielle avec Macron qui fait ses annonces, ce qui lui permet à la fois de couper l'herbe sous le pied de ses adversaires de droite et de faire passer ses adversaires de gauche pour des amis. Donc là, il y a un chemin où il est dans la lutte contre le réchauffement climatique, dans la lutte pour le pouvoir d'achat, dans la défense du pouvoir d'achat des Français et dans la défense de la grandeur industrielle de la France. Donc c'est magique pour lui le nucléaire.
Donc la filière semble avoir repris du poil de la bête alors qu'elle semblait plutôt à l'agonie ces dernières années. Et c'est quoi? C'est le lobby du nucléaire finalement qui a déjà gagné la bataille des idées?
Disons que effectivement, elle allait très très mal avec les déboires de l'EPR de Flamanville et elle s'est remise en ordre de marche pour ne pas mourir. Mmh. Et dans cette opération de sauvetage, elle a pu compter sur des puissants soutiens au sein du gouvernement. On a quand même eu un Premier ministre qui était l'ancien lobbyiste d'Areva. Bruno Le Maire aussi est très pro-nucléaire. Et des relais dans l'opinion, donc on peut appeler ça des lobbies ou des think tanks, etc., qui ont mis en avant la compatibilité du nucléaire avec la lutte contre le réchauffement climatique.
Ouais. Est-ce que vous avez observé vraiment un clivage au sein même des écologistes aujourd'hui sur cette question, ou c'est plutôt un effet de loupe pas tout à fait juste?
Alors, les écologistes qui n'en font plus une ligne rouge sont ceux qui ont rejoint la Macronie. C'est très lisible. Donc on a Barbara Pompili qui n'est pas, qui va jamais dire qu'elle est pro-nucléaire, mais qui n'en fait plus une ligne rouge, qui ne claquera pas la porte du gouvernement. Il y a François de Rugy aussi qui l'a écrit dans son bouquin que c'était, il était illusoire de se passer du nucléaire. Et puis Pascal Canfin qui défend à Bruxelles l'idée que le nucléaire est une énergie verte et doit donc bénéficier de financements intéressants.
Pascal Canfin, par exemple, comme dans ces écologistes qui changent d'avis sur la question, écoutons-le d'abord en 2017, sur France Inter, à l'époque, il était directeur général du WWF.
L'énergie nucléaire est une énergie du passé. Le carnet de commandes d'EDF est vide et la France
doit
a mis
rester à vous
tous
entendre,
ses œufs. Tous ces œufs dans ce panier-là. C'est une anomalie, c'est une absurdité. Ça pouvait faire sens peut-être dans les années 60, mais aujourd'hui, c'est une absurdité.
Donc ça, c'était en 2017. Et puis, devenu eurodéputé, le 21 avril dernier, voilà ce qu'il disait.
C'est le nucléaire, si on enlève le côté religieux de ce débat qui peut exister parfois en France, on voit que sous certaines conditions, le nucléaire, parce qu'il est décarboné, peut être utile à la transition, mais à condition de savoir gérer les risques et de savoir gérer les déchets.
Yves Marignac, comment vous expliquez ce changement de cap alors? Parce que malgré les si, il y a quand même une nouvelle position de la part de Canfin comme d'autres.
Hein. Oui, mais c'est... D'abord, c'est un changement de cap qui est quand même très singulier, très franco-français. Dans un environnement international où il n'y a plus photo entre le développement des renouvelables et le développement du nucléaire. Hein. Juste un chiffre, l'an dernier, plus 256 gigawatts de renouvelables dans le monde, plus 0,4 gigawatts de nucléaire. Donc on a une focale extrêmement particulière liée au fait qu'on a un nucléaire qui est profondément installé, techniquement, économiquement et politiquement, et qui a autour de ça un certain nombre d'effets de verrouillage. Mais les si qu'évoque Pascal Canfin sont justement très importants, parce que, en fait, en quelques années, on est passé, disons, d'un contexte, d'un environnement politique où on parlait essentiellement énergie, et quand on parlait nucléaire, on parlait y compris des risques, à une conversation essentiellement climat, où on ne parle pratiquement plus du nucléaire que sous l'angle décarboné. Ça ne veut pas dire qu'on ne parle plus du tout des problèmes d'accidents, des problèmes de déchets, mais ils sont passés complètement au second plan. Et puis, ce qui est extrêmement frappant aujourd'hui aussi, c'est à quel point ce débat est déconnecté de la réalité économique et de la réalité des coûts et de la compétitivité respective des options.
François-Marie Bréon, avant de passer aux questions des auditeurs, aujourd'hui, dans cette lutte, hein, dans la crise climatique, justement, le nucléaire vraiment a un rôle assez nouveau, finalement ?
Nouveau
on
nom,
lui avait pas attribué auparavant.
Nouveau nom. Maintenant, pour répondre à la question tout à l'heure, savoir si le nucléaire va pouvoir résoudre le problème climatique, certainement pas. Le nucléaire ne va pas tout résoudre. On va pas pouvoir vivre comme aujourd'hui simplement en développant le nucléaire. Mais est-ce que le nucléaire fait partie des solutions? Peut-il contribuer à la solution? C'est bien évident. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui a été dit par le GIEC dans ses différents rapports. C'est quelque chose qui est redit encore très récemment par RTE, comme quoi il est nécessaire de développer des réacteurs nucléaires. En tout cas, c'est l'option qui paraît la plus économique.
Enfin, le GIEC, il n'apporte pas un soutien franc et massif au nucléaire. Hein. Non, il dit que c'est une possibilité. Mais
Mais qu'est-ce que j'ai dit? Moi, j'ai dit que ça fait partie des solutions, comme il y en a d'autres. Je n'ai pas dit autre chose. Et j'ai bien dit que ce n'est pas le nucléaire qui va sauver la question climatique.
Mais en attendant, c'est ça qui est le plus mis en avant, en l'occurrence par le président de la République ici en France.
Aujourd'hui, il me semble que le président de la République, en même temps qu'il a parlé de nucléaire, il a parlé aussi des énergies renouvelables, et donc il ne met pas que ça en avant. Mais n'oublions pas que le nucléaire, en fait, je fais un peu de provocation, mais c'est une énergie qui est écologique, non seulement parce qu'elle émet très peu de dioxyde de carbone, on met ça en avant pour le climat.
Ouais, mais l'aspect carbone, c'est l'aspect direct du carbone, mais indirectement, on ne peut pas dire la même chose.
Mais si, on peut dire la même chose.
Alors, on a François-Marie Bréon, on a des questions là-dessus, du coup, je vais vous poser une question, vous allez y répondre par exemple. Joe l'ambulancier sur Twitter nous dit « Tant que tout fonctionne bien, on dirait de l'extérieur que tout est sous contrôle, mais quid de l'extraction de l'uranium, de l'entretien des centrales et des déchets, n'est-ce pas une épée de Damoclès au-dessus de nous ?»
Donc d'abord, quand on regarde les émissions de CO2 du nucléaire, bien évidemment, on regarde pas uniquement les émissions directes, parce que ces émissions directes sont nulles, mais on regarde les émissions sur l'ensemble du cycle
indirect,
de vie,
donc.
Du cycle de vie, c'est-à-dire y compris la mine, y compris la construction de la centrale, y compris la gestion des déchets. Et là, on arrive, les chiffres du GIEC, c'est 12 grammes de CO2 par kilowattheure, donc c'est complètement équivalent à celle des énergies renouvelables. Et on pense même qu'en France, c'est plutôt mieux que ça, pour un certain nombre de raisons, en particulier à cause de l'enrichissement et de la durée de vie des centrales. Mais donc, de toute façon, c'est une énergie qui est très peu carbonée, comme les énergies renouvelables. Mais par ailleurs, il faut bien voir que le nucléaire a un énorme avantage, c'est que c'est une énergie qui est extrêmement concentrée. Et ça veut dire que si vous voulez extraire cette énergie et la transformer en électricité, vous avez besoin de peu de surface, vous avez besoin de peu de matériaux, c'est-à-dire peu de béton, peu d'acier, peu d'aluminium, peu de cuivre, en comparaison aux alternatives. Et donc c'est pour ça que je dis que c'est une énergie qui est écologique, parce qu'elle est assez sobre dans l'utilisation des matériaux pour produire l'électricité.
Vous allez faire bondir des auditeurs de l'autre côté de la radio en disant
«
nucléaire, énergie écologique », justement.
Oui, je peux
Yves Marignac.
Je peux pas laisser dire que le nucléaire est une énergie écologique, qu'elle soit effectivement dense et que du coup, par kilowattheure produit, elle puisse consommer moins de matières premières que d'autres énergies. Ok, même si c'est des chiffres qui sont à relativiser compte tenu de l'amélioration continue des performances des renouvelables. Il faut quand même prendre en compte que les matières qui sont passées dans le nucléaire sont moins réutilisables, parce qu'un des grands enjeux aujourd'hui pour réduire notre empreinte en matières premières, c'est le recyclage. Elles sont moins réutilisables par essence du fait de ce contact avec la radioactivité que le béton du socle des éoliennes, par exemple. Mais surtout, quand on parle d'une énergie écologique, on parle d'une énergie qui doit contribuer à l'atteinte de l'ensemble des objectifs de développement durable. Et on a regardé ça attentivement. Le GIEC, en 2018, dans son rapport sur les trajectoires à 1,5 degré, a fait l'exercice de regarder 23 option de réduction des émissions de gaz à effet de serre par rapport aux 17, à l'atteinte des 17 objectifs de développement durable. Parmi les 23 options regardées, le nucléaire est celui, après une revue de la littérature scientifique, est celle qui obtient le plus mauvais score en termes de contribution à l'ensemble des objectifs de développement durable, très loin derrière les énergies renouvelables.
Allez, le débat est lancé, c'est le sujet de la Terre au carré cet après-midi. Message et note vocale sur l'appli France Inter.
Que nous passions ensemble dans la douceur du soir, habillés de candeur. Qu'est-elle devenue cette robe légère que j'avais accrochée? D'autres se sont amassés. Quelle est donc cette douleur étrange? Comme un nouveau poids sur l'existence. L'insouciance était telle que nous pensions ensemble soulever de nos mains le monde qui semblait éternel. Nos enfants seraient beaux, ils auraient devant eux de splendides chemins. Nous rêvions de tout dans tous les sens, sans souci du poids de l'existence.
C'était la voix d'Émilie Loiseau sur Inter.
La Terre au carré. Sur France Inter.
Bonjour, je m'appelle Erwan Gaguen, j'habite à Lyon. Je voulais dire que je regrette profondément que Negawatt et les autres associations anti-nuc comme Greenpeace ou Europe Écologie Les Verts ne parlent que de la fin du nucléaire alors que le plus important c'est de mettre fin à la consommation des sources d'énergie fossiles. Le pétrole bien entendu, mais aussi le gaz. Or, j'ai l'impression que ces personnes préfèrent rejeter du CO2 en brûlant du gaz lorsque les éoliennes ne tournent pas, plutôt que d'utiliser un moyen de production électrique pilotable et largement décarboné qu'est le nucléaire. À mon avis, ils se trompent de combat et oublient l'objectif premier qui est la lutte contre le réchauffement climatique. L'exemple de l'Allemagne, qui rejette 4 fois plus de CO2 que la France pour sa production d'électricité, malgré 4 fois plus d'éoliennes et 5 fois plus de panneaux solaires, montre bien qu'un scénario sans nucléaire en France conduira à augmenter quasiment certainement nos rejets de CO2.
Merci Erwan pour votre question sur l'appli France Inter. Question directement adressée donc à Yves Marignac pour Negawatt dans le cadre de ce débat sur le nucléaire. Qu'est-ce que vous lui répondez Erwan?
Je vais repartir de son dernier point sur les émissions allemandes parce que le chiffre qu'il a donné concerne les émissions liées à l'électricité. Et précisément quand on regarde les émissions et l'empreinte en émissions de gaz à effet de serre de l'Allemagne par rapport à la France, elle est moins d'une fois et demie plus élevée, alors même que l'Allemagne a aujourd'hui encore un niveau industriel plus important que le nôtre. Donc l'écart, quand on regarde toutes les émissions, n'est pas du tout le même que celui quand on se focalise sur l'électricité. Et donc cet argument-là est justement le pendant du reproche que Erwan faisait à Negawatt, qui par ailleurs n'est pas une association anti-nucléaire, qui est une association d'experts travaillant sur des scénarios de transition énergétique, qui insiste justement sur la dimension systémique de l'énergie, sur la nécessité de ne pas regarder que l'électricité, qui ne représente qu'un quart de notre consommation, et qui produit des scénarios d'atteinte de la neutralité carbone en empreinte pour la France à 2050, en allant vers 100% renouvelable, y compris pour l'électricité. Ça fait longtemps que Negawatt dit que c'est possible. Et aujourd'hui, Erwan pourrait actualiser son information parce que on n'est plus les seuls en France à le dire. Par exemple, RTE, dans les scénarios qui ont été publiés fin octobre, dessine plusieurs trajectoires, dont des trajectoires qui atteignent la neutralité carbone avec 100% de renouvelables, et tout en respectant évidemment l'impératif de sécurité électrique. Donc aujourd'hui, ce choix, il est possible, et l'association Negawatt inscrit évidemment toutes ces réflexions dans une priorité de lutte contre l'urgence climatique et conclut que le nucléaire n'est pas nécessaire pour cela.
Morgane Bertrand, pour répondre là-dessus.
Oui, en fait, on pose, quand on compare la France et l'Allemagne, on a le sentiment qu'on a le choix entre le nucléaire ou le gaz pour réduire la part des énergies, pour décarboner notre mix énergétique en 2050. Mais on peut aussi déplacer le débat et se dire que finalement, on a le choix entre le nucléaire et la sobriété. C'est-à-dire, au lieu de consommer
changer
pareil,
notre façon de consommer, tout
on
simplement.
Peut essayer de changer notre façon de consommer, et à ce moment-là l'alternative n'est plus nucléaire ou gaz, mais est nucléaire ou pas nucléaire.
Mais alors justement, est-ce qu'il existe, alors là je m'adresse à tous les trois, est-ce qu'il existe des sortes de modélisations, comme d'ailleurs ça existe pour le climat, on sait qu'à telle année il fera plus X degrés, est-ce qu'il y a des modélisations sur en gros l'augmentation de la consommation d'énergie, on va rester sur la France, pour justifier qu'il y a des centrales qui vont être construites, ou c'est
On parle de 30% en plus d'ici 2050.
Un peu comme une sorte de vague, que même si on freine aujourd'hui,
c'est le chiffre que vous donnez dans l'Obs, c'est
30%. RTE a sorti des scénarios fin octobre là, qui justement passent au crible tous les scénarios de 100% d'énergie renouvelable à 50%.
Non, mais sur la consommation.
Justement, et en tenant compte d'une consommation qui va de la sobriété à ce qu'ils appellent l'industrialisation profonde, donc on relance un appareil industriel, et tout ce qui a été commenté est le scénario médian. Donc on est à 645 TWh de consommation. C'est plus qu'aujourd'hui, mais RTE a travaillé sur un scénario où on consomme encore plus parce qu'on réindustrialise massivement, on a besoin d'hydrogène, et un scénario où on consomme nettement moins.
François-Marie Bréon.
Mais en fait, effectivement, le rapport de RTE, je pense qu'il faut vraiment qu'on s'appuie tous dessus, parce que là, ce sont les experts qui parlent. Ici, on a deux militants qui sont en train de parler. Moi, je suis militant pro-nucléaire. Yves Marignac est un militant anti-nucléaire. Écoutons ce que disent les experts. Je pense que c'est pas... Même à cette antenne, on n'entend pas assez le micro à eux. Alors, qu'est-ce que dit RTE ? Il y a quelques points majeurs. D'une part, ils disent la consommation d'énergie va baisser, mais celle de l'électricité va augmenter pour se substituer aux énergies fossiles. Aujourd'hui, 80% de notre énergie, c'est du fossile. Donc, je peux vous dire que même si on passe en électrique, et même si on augmente de 30% notre consommation d'électricité, ça va être une sobriété énorme.
Et la part du nucléaire là-dedans?
Alors ça, il y a plusieurs, comme ça a été dit, il y a plusieurs scénarios qui ont été...
Mais actuellement, alors est-ce qu'on peut déjà resituer actuellement la part du nucléaire en France?
Ça dépend un petit peu comment vous comptez, mais puisque l'électricité, ce n'est que 20% de la part totale de l'énergie, eh ben, le nucléaire, c'est pas plus que 20%, c'est moins que 20%, en fait, aujourd'hui. Et donc la question, c'est de savoir que puisqu'on va passer sur du nucléaire, sur de l'électricité qui va devenir majeure dans la consommation d'énergie dans le futur, à ce moment-là, la part du nucléaire et la part des renouvelables aussi vont augmenter dans la consommation totale d'énergie. Mais justement, si on regarde un petit peu le rapport RTE, à nouveau, il y a 6 scénarios principaux qui sont mis en avant, et comme ça a été dit, avec un certain nombre de variables. Mais si on regarde les résultats pour ces 6 scénarios, plus vous mettez de nucléaire dans votre scénario, moins c'est cher, ça utilise moins de matière, ça émet moins de CO2, ça nécessite moins de développement de réseau et ça nécessite beaucoup moins de fluidité. C'est pas le militant pro-nucléaire qui est en train de vous dire ça, c'est ce qui ressort directement de ce rapport RTE, qui sont à nouveau les vrais experts sur la question.
Yves Marignac, lorsque l'Agence internationale de l'énergie atomique rappelle que le nucléaire a permis d'éviter dans le monde au moins l'équivalent de 60 gigatonnes de CO2 depuis 1970, c'est-à-dire 5 années d'émissions mondiales du secteur électrique, c'est un secteur dont on aurait peut-être tort de se passer, non ?
Alors, d'abord, ce calcul-là, il est fait en supposant que si ces réacteurs ne produisaient pas d'électricité, toute l'électricité correspondante exemple, viendraient de centrales à charbon, ce qui est évidemment un calcul tout à fait biaisé pour renforcer l'idée que le nucléaire est important. Au niveau mondial, comme je l'ai dit, il n'y a pas photo aujourd'hui dans le développement des renouvelables et du nucléaire. Les scénarios du GIEC, le GIEC, a regardé dans les trajectoires 1,5 degré, plus de 80 trajectoires dans la revue scientifique. La médiane de la part des renouvelables en 2050 dans l'électricité dans ces scénarios, c'est 77%. La médiane de la part du nucléaire, c'est 10%. L'Agence internationale de l'énergie a publié un scénario net zéro au début de cette année. De la même manière, les renouvelables, 90% de l'électricité en 2050, le nucléaire, 10%. Donc, dire qu'aujourd'hui, le nucléaire est absolument nécessaire, que sans le nucléaire, il n'y a pas de salut du point de vue climatique, c'est rigoureusement contraire à la réalité des systèmes énergétiques. Et je voudrais quand même répondre à la qualification de militant antinucléaire, parce qu'il y en a assez, en fait, de cette façon de disqualifier systématiquement des experts comme moi en essayant de réduire leur positionnement à ça. Je passe mes journées à travailler sur des dossiers, à produire des scénarios comme ceux de Négawatt, à travailler sur des dossiers liés au nucléaire, à sa sûreté, etc. Et donc, je suis un expert. Et quand je vais à l'autorité de sûreté nucléaire, dont je suis membre de groupe permanent d'experts, c'est comme expert. Quand j'ai des réunions de travail, on en a souvent avec RTE et l'ADEME, c'est comme expert.
Et donc,
cette façon de réduire une expertise qui est différente de celle de RTE, qui est différente de celle de EDF et qui contribue justement à une expertise pluraliste en la disqualifiant comme position militante, ça suffit.
Bon, c'est votre réponse à François-Marie Bréant.
Allez, je vous lis un message de Florent qui nous écrit: avec des délais de 15 à 20 ans pour la construction des EPR ou des micro-réacteurs de technique encore inconnus en France, comment le nouveau nucléaire pourrait-il aider dans la transition qui doit être achevée dans 20 ans? Il ne participerait qu'à la suite ou à la fin.
Voilà, mini-réacteurs, donc les SMR, c'est une autre sorte de réacteur.
Small Modular Reactor. Voilà. C'est un peu présenté comme l'avenir du nucléaire. Emmanuel Macron a annoncé...
Qu'est-ce qu'il annonce alors exactement par rapport au gros, donc aux EPR type Flamanville ou aux petits SMR?
En fait, donc EDF s'est positionné pour faire des EPR2 qui sont des Flamanville améliorés et conduit par ailleurs avec des partenaires, le CEA, Technicatome et... Naval Group, des recherches sur un petit réacteur qu'on appelle donc SMR, Small Modular Reactor. Macron a annoncé dans le cadre du plan France 2030 un milliard d'euros sur le nucléaire, dont une bonne moitié iront sur ces petits réacteurs qui sont quand même à l'état de recherche avancée, on va dire. Ouais.
Flamanville qui ne fonctionne toujours pas, faut-il le rappeler, peut-être l'année prochaine, mais avec beaucoup de retard et beaucoup de coûts supplémentaires. Parce qu'on est passé grosso modo de 3 milliards, on l'annonce en 2004,
3,3
à 19 milliards aujourd'hui,
c'est ça. Après 20 milliards, et il devait sortir en 2012. Et il sortira, il devrait être mis en service en 2023.
Ouais. Allez, on se retrouve dans un instant. D'autres messages et réactions pour vous sur ce dossier nucléaire et climat.
France Inter. La Terre au carré.
14h33, Camille passe au vert, Camille Cronier.
Avec l'adoption définitive de la loi pour lutter contre la maltraitance animale. Après les députés, ce sont les sénateurs qui ont procédé ce matin au vote final. Ils étaient tous là avec 332 voix pour, une contre et 10 abstentions. Et je suis allée les voir, justement, les sénateurs, avant le vote, hier après-midi, parce qu'ils avaient été accusés début octobre d'avoir torpillé le texte, mais l'accueil sur le sujet n'a pas été, très chaleureux ou intéressé. Question sur la loi contre la maltraitance animale.
Non, j'ai vraiment pas la tête là ça.
Là, moi, j'ai la loi de finances rectificative.
C'est pas moi qu'il faut interviewer.
Pourquoi ?
Parce que je suis pas sur ce sujet-là du tout. Demain, moi, je suis sur une commission mixte paritaire.
Vous avez quand même un avis, vous êtes sénateur tous les...
C'est pas moi qu'il faut interviewer.
J'ai un rendez-vous, honnêtement.
C'est juste sur la loi sur la maltraitance animale, sujet important.
Honnêtement, je
ils en ont rien à foutre. Voilà, j'ai résumé sur le moment, n'empêche donc qu'ils ont voté le texte dans lequel figure, je le rappelle, la fin de la vente de chiots et de chatons en animalerie à partir du 1er janvier 2024, un meilleur encadrement des ventes en ligne, un certificat d'engagement pour éviter les abandons, La France est malheureusement championne en la matière avec 100 000 abandons par an, des sanctions renforcées en cas de sévices, mais aussi l'interdiction progressive des animaux sauvages dans les delphinariums et les cirques. Alors, il y a ceux qui sont à fond pour tout, comme cette sénatrice de La Réunion, Nassima Dindar.
C'est une loi importante, hein. Quand on préserve la nature, on doit aussi préserver les animaux et on doit préserver aussi les humains. Et tout ça, ça appartient à la même humanité.
Idem pour Paul Toussaint Parigi de Haute-Corse.
Aujourd'hui, plus que jamais, les animaux doivent être traités comme il se doit. C'est quelque chose que l'on doit à la nature, tout simplement. Personnellement, je suis contre les animaux de cirque. Je suis contre le fait d'agiter des animaux comme ça pour amuser la galerie.
Et s'il met le cirque en avant, c'est que l'interdiction de présenter des animaux dans les cirques d'ici 2 ans, puis d'en détenir d'ici 7 ans, fait partie des sujets de discorde.
Non, je ne suis pas favorable. Ce n'est pas parce qu'ils sont dans un cirque qu'ils sont maltraités. Je pense qu'au contraire, je pense que les gens dans les cirques aiment leurs animaux. Et de faire une mesure totalement arbitraire sur la totalité de ces animaux-là, c'est une bêtise. Dans ces cas-là, il faut interdire les animaux domestiques parce qu'un chat ou un chien n'est pas fait pour être couché dans un lit ou être sous la table de la cuisine.
Pas content non plus cet élu au sujet des delphinariums, 21 dauphins et 4 orques actuellement en France, mais terminé dans 5 ans.
Est-ce que véritablement les soucis des Français sont aujourd'hui sur ces problématiques-là ? Est-ce que pour autant les dauphins dans les delphinariums en France sont maltraités ?
Ils sont peut-être stressés en delphinarium.
Vous pensez que les dauphins dans l'océan ou dans la Méditerranée ne peuvent pas être aussi stressés que dans un delphinarium ? Non, j'en sais rien.
Et pourtant si, hein, de nombreuses associations et spécialistes l'ont soulevé, d'où la loi. Cet autre sénateur se pose, lui, la question du devenir des 1000 animaux sauvages dans les 120 cirques itinérants actuels, avec un petit parallèle. Hein.
Vous croyez qu'ils vont être mieux ? C'est comme enlever un enfant de sa famille parce que on ne sait pas pourquoi.
Alors, il parle d'extraits doctrinaires, le centriste d'Indre-et-Loire Pierre Louault, en visant les animalistes. Et là-dessus, Bruno Retailleau, le patron des Républicains au Sénat, le rejoint.
Dans le grand combat écologique, il ne peut pas y avoir d'écologie qui ne soit pas une écologie humaine. N'en déplaise aux animalistes, la nature nous a dotés d'un génie humain, d'une intelligence. Et c'est cette intelligence qui fait que nous avons la charge aussi de protéger les êtres vivants. Et l'homme n'est pas une espèce à égalité avec les animaux.
Elle est au-dessus, vous dites, hein ?
Bien sûr, elle est au-dessus. Bien sûr qu'elle est au-dessus. Si on la mettait au même niveau que l'animal, alors il y aurait une forme de déshumanisation.
Vous vous rendez compte à ce point-là. En tout cas, les sénateurs, désolé, j'ai pas beaucoup de femmes, hein, elles sont moins du tiers, de toute façon je le rappelle, et puis j'en ai pas croisé beaucoup hier. Les sénateurs en connaissent un rayon sur les animaux. Attention, séquence
Moi, je suis éleveur.
Je suis de la campagne, je suis agriculteur.
Moi qui suis vétérinaire.
Moi, j'ai été élevé et le chat était à table avec nous.
Moi, je passe ma vie dans mon département à m'occuper des animaux. J'ai même empêché la castration d'un animal qu'il ne méritait pas.
Voilà, il y a aussi des défenseurs des animaux, des vrais au Sénat. Enfin, je vous signale que certains jugent cette loi contre la maltraitance animale trop faible. Le socialiste Patrick Kanner, par exemple.
C'est une loi qui n'est pas parfaite, qui ne va pas jusqu'au bout. Si on parle du bien-être animal, il faut évoquer l'ensemble des sujets et non pas uniquement ceux qui, a priori, ne fâcheraient pas. Les questions concernant la corrida, la chasse à cour ne sont pas évoquées, mais il y a des lobbies qui ont fonctionné, on l'a bien vu.
Et voilà, on y arrive évidemment, paf, les chasseurs dans le viseur, donc j'étais obligée de faire un petit tour sur ce sujet-là.
La chasse est un sujet qui dépasse et de loin la maltraitance animale.
Alors lui, il esquive le truc très habilement, François Patriat, quand d'autres s'engouffrent dans des brèches relativement osées, on va dire.
Les chasseurs regardaient les relations entre un lion et une chèvre ou un petit animal. Regardez une photo, comment un loup vient enlever à sa mère le veau qui vient de naître et le déchiquette et le délivre. Regardez comment un ours déchiquette un saumon.
C'est pour manger, là, c'est pas pour un loisir.
Non mais c'est pas que pour un loisir, c'est une relation. Vous savez, à vouloir détruire toutes les traditions, on va perdre aussi notre société.
Enfin, un dernier qui est lui dans la logique, on va dire.
La chasse traditionnelle, par définition, on n'est pas sur un sujet qui correspond au bien-être ou à la maltraitance. Par définition, on le tue.
Vous me rappelez votre nom, s'il
vous plaît ? Duplon, comme pour la chasse.
Voilà, Duplon, ça ne s'invente pas. Laurent Duplon de Haute-Loire.
Et c'est avec lui que vous refermez cette page de Camille Passevert aujourd'hui. C'est à réécouter sur franceinter.fr. Discussion, débat sur le nucléaire et le climat avec vos messages. No friends in the industry, my brothers been my brothers, man, you niggas ain't no kidding me, a fact. Whoa, yeah, you heard about me, you don't know me more than that. Yeah, I know I, hey, yeah. No friends in the industry, my brothers been my brothers, man, you niggas ain't no kidding me, a fact. Whoa, I was known for snapping when I chat before the app. Stood on everything I said and never took it back, whoa.
No friends in the industry, I had to draw the line between my brothers and my enemies, a fact. Niggas love to start a beat, don't wanna keep it rap. Yeah, you hit us up and now we owe you something back. See, I was young, angel, but these niggas turned me evil. Yeah, I know you, but you really ain't my people. Yeah, I heard some people say they know him as my equal. Truth be told, I son these niggas, girl, I don't compete with them. Ask about the boy and they gon' say he got the streets with them. Niggas so offensive knowing they don't have no defense. Why they always act like we can face it with a meeting? All that linking up, man, I'ma see him when I see him. Yeah. Yeah. Yeah, brothers, but my brothers, man, you niggas ain't no kidding, that's a fact, ayy. And I'm like Shakari, smoke, I'm on and off the track, ayy. And you love that hoe with me, I put her on her back. You get Drizzy on the track, here, put you on the map. Aw, oh, it's like that, hell yeah, it's like that, ayy. And I got a contract, it's a max, ayy. Since I got in contact, she attached. When I signed my first deal, that shit came through a fax. That should let you know how long I've been out here running laps.
I've been doing it for a long time.
Yeah. No friends in the industry, my brothers been my brothers, man, you niggas ain't no kin to me, a fact, whoa. I was known for snapping when I chat before the app. Stood on everything I said and never took it back, whoa. No friends in the industry, I had to draw the line between my brothers and my enemies, a fact. Niggas love to start the beat, don't wanna keep it rap. Yeah, you hit us up and now we owe you something back. Man, this shit too dirty, got a yellow tape. And I got a waiting at the telly naked. We ain't dropped, though, how you niggas celebrating already. Disrespect is something I ain't tolerating. Your niggas fuck with me, I give them motivation. And your circle shrink and see some boys escaping. Rest of them is guilty by association. Ayy, what? For debating who the GOAT. Then I make the shit about the numbers, all I know. Then I make the shit about the summer, all I know. Better find you someone else to hit with all that smoke, nigga. Yeah, and all them tweets and all them posts. Ain't got the type of time to be playing with you folk. I had a richer pride to these niggas, that's the joke. I'm really down to die behind these verses in my notes. Yeah.
Drake sur France Inter, No Friends in the Industry.
La Terre au Carré, le magazine Science et Environnement. Mathieu Vidard sur France Inter.
Le nucléaire ne permettra pas d'éviter des efforts massifs, dont les gens n'ont pas idée, hein, d'économie d'énergie et de sobriété, mais ça permettra que ces efforts soient un peu moins violents que si on refuse le nucléaire. Donc c'est un amortisseur de la sobriété. La deuxième chose qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est une énergie sur laquelle on étudie les dangers depuis un siècle. C'est connu depuis longtemps, les dangers du nucléaire. Et il faut pas croire que les gens dans ce secteur font absolument n'importe quoi, n'importe comment, comme ils en ont envie. Quand on regarde, et c'est les Nations Unies qui tiennent l'inventaire, c'est pas moi qui le dis, quand on regarde les inconvénients des accidents nucléaires qui ont eu lieu dans le monde, on se rend compte que le nucléaire, c'est considérablement moins dangereux que le charbon, que la chimie, que la circulation automobile. Donc il y a une objectivation des dangers du nucléaire, et en fait, il n'y a pas de solution merveilleuse en matière d'énergie, il y a un arbitrage entre les inconvénients et les avantages de chacune des formes d'énergie.
Voilà une des figures les plus influentes du nucléaire en France, Jean-Marc Jancovici, qui était l'invité de la matinale de France Inter le 21 octobre dernier. Et c'est le dossier en partenariat avec l'Obs cet après-midi avec nos invités François-Marie Bréon, Yves Marignac et Morgane Bertrand. François-Marie Bréon, il faut hiérarchiser les menaces en affirmant justement que le nucléaire, c'est moins grave au fond que le changement climatique et qu'il faut y aller.
Il n'y a pas de comparaison, c'est évident. Enfin, souvent, les discours anti-nucléaires mettent en avant les accidents, et par exemple Tchernobyl. Et je dis souvent que l'accident de Tchernobyl, un accident nucléaire mal géré, donc le seul exemple c'est Tchernobyl, ça a fait 3000 morts, et une centrale au charbon, ça n'a même pas besoin d'un accident pour faire 3000 morts. Hein, c'est le fonctionnement normal des centrales au charbon, du fait de la pollution, de faire ces morts-là. Donc bien évidemment, enfin, je pense que l'immense majorité des gens ne se rendent pas compte de la gravité du changement climatique, de la gravité de ce qui nous attend, et donc finalement le Tchernobyl ou Fukushima, c'est pas grand-chose par rapport à ça.
Je rappelle que vous êtes climatologue, hein.
Effectivement, mais c'est pas à ce titre-là que je suis en train de
parler. Non, mais c'est intéressant quand même de
le
rappeler.
Effectivement, je suis en train, je revendique le fait que je suis en train de parler au titre de militant pro-nucléaire, mais militant pro-nucléaire qui s'appuie sur les experts. C'est-à-dire que moi, plutôt que d'aller écouter ce que raconte Greenpeace ou compagnie sur le nucléaire, je vais regarder les rapports de l'ANDRA, je vais regarder les rapports de l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, je vais regarder le RTE.
Enfin, ce qui n'empêche pas au passage les ONG de regarder les rapports aussi, François-Marie Briand.
Bah, ils ont des lectures un petit peu curieuses de ces rapports-là. Typiquement, quand j'entends dire que le nucléaire, c'est beaucoup plus cher que les énergies renouvelables, le RTE dit exactement le contraire. Donc, ils ont quand même lecture assez
bizarre. Au sujet de RTE, Karine nous demande sur franceinter.fr, pourquoi est-ce qu'on ne demande pas un rapport à d'autres que RTE, qui est, rappelons-le, une filiale d'EDF ?
Mais RTE, c'est l'agence nationale qui est chargée de l'équilibre du réseau électrique. Donc c'est quand même eux qui sont le mieux placés pour faire ça.
Mais il n'y a pas un petit conflit d'intérêt quand même sur cette question ?
Non, très franchement, je ne crois pas qu'il y ait de conflit
d'intérêt. Yves Marignac, vous en pensez quoi ?
Non, je pense que le travail de RTE est effectivement un travail très, très sérieux, très utile, exemplaire à bien des points dans la méthodologie et dans la concertation qui est menée avec les parties prenantes. N'interdit pas de faire une lecture critique de ce que produit RTE. Et précisément, on peut pas dire, comme François-Marie Briand l'a dit tout à l'heure, que RTE conclut qu'il est nécessaire, c'était son terme, de développer le nucléaire. On ne peut pas dire non plus que RTE conclut que le nucléaire est beaucoup moins cher que les renouvelables. Au contraire, la première chose, c'est que RTE confirme la faisabilité d'un système 100% renouvelable, confirme aussi que la sobriété que l'on pourrait appliquer, c'est le sens de la trajectoire basse que Morgane Bertrand a évoqué tout à l'heure, produit des économies au moins équivalente à celle du choix entre nucléaire et renouvelable. Mmh. Et l'écart de coût entre un système tout renouvelable ou un système avec du nucléaire, il est dans un ordre de grandeur qui est relativement faible, 15%, et surtout marqué d'énormément d'incertitudes. Et notre analyse aujourd'hui du rapport RTE, c'est que les hypothèses sont quand même beaucoup orientées d'un côté favorable au nucléaire. Je voudrais juste quand même répondre au propos de Jean-Marc Jancovici, on est complètement d'accord avec lui sur la question de la sobriété et de l'impératif de réduction des consommations. Mais il faut hiérarchiser les menaces, objectiver les risques nucléaires. Et on ne peut pas ramener l'accident à juste une question de mortalité. C'est des dizaines de milliers de personnes au moins qui sont, qui voient leur vie totalement changé par nécessité de déménager ou de vivre dans un environnement contaminé. Et puis surtout, il faut hiérarchiser les menaces, mais il faut aussi hiérarchiser les solutions. Et votre auditeur précédemment disait comment le nucléaire peut être une solution alors qu'aucun réacteur que l'on déciderait de lancer aujourd'hui ne peut être en service avant 2035-2040. Et donc oui, face à l'urgence climatique, tout investissement aujourd'hui dans les programmes nucléaires détourne les ressources à investir dans les solutions les plus efficientes à plus court terme.
Vous parlez, Yves Marignac, des énergies renouvelables. Jean Hervé nous écrit par mail que l'énergie nucléaire prend beaucoup moins de place que les énergies renouvelables. On a aussi un message de Bruno, qui nous écrit « Longtemps anti-nucléaire, j'ai changé d'avis, au sens où je crois qu'en sortir n'est plus la nécessité première face au changement climatique. Néanmoins, il faudrait en sortir pour des raisons d'extrême dangerosité sur de longues périodes. » Et par rapport à ça, donc par rapport aux accidents, Bruno nous écrit « Faut arrêter immédiatement le nucléaire, c'est beaucoup trop dangereux avec risque, par exemple, dit-il, de stérilisation de la vallée du Rhône, évidemment des victimes potentielles. Et puis, il y a la question, François-Marie Briand, des déchets nucléaires. Il y a en ce moment et depuis plusieurs années, par exemple, une énorme mobilisation sur la question de Bure.
Avec le stockage des déchets dans le sous-sol.
Donc sur les déchets nucléaires, là encore, pour moi, il faut pas écouter ce que racontent les experts. Il faut écouter ce que racontent les experts et pas nécessairement ce que racontent les militants. Donc ce qu'il
c'est
faut
pas
écouter,
dangereux, vous allez dire.
Est-ce qu'il faut écouter l'ANDRA, qui est l'agence publique de gestion des déchets nucléaires. Je rappelle que ces déchets nucléaires, ils ne sont jamais en contact avec la biosphère. Donc ça veut dire que ce n'est pas une pollution au sens de au sens propre de la pollution. Et l'idée quand même, c'est bon, ensuite il y a plusieurs types de déchets nucléaires, mais ceux qui posent le plus de problèmes, c'est les déchets à haute activité à vie longue, donc qui concentrent 99% de la radioactivité. Vous savez que le projet, c'est effectivement d'aller les mettre à Bure,
à
500 mètres de profondeur, dans une couche d'argile qui est stable, qui a été stable pendant plus de 100 millions d'années. Et ce que nous disent les experts, à nouveau, c'est que une fois que les déchets sont mis là, ils ne reviendront jamais à la surface,
Ça tombe bien parce que nous,
reviendront à la surface, ils auront, la radioactivité aura très largement.
On a un expert, on a un physicien nucléaire, Bernard Laponche, qui justement dit le contraire de ce que vous nous racontez, extrait d'un reportage en 2018, avec d'abord Jacques Delay, qui est ingénieur à l'ONDRA, qui va nous dire quelle est la qualité du sol argileux, justement, à Bure pour les déchets radioactifs, et ensuite Bernard Laponche sur les risques.
Donc c'est une roche qui est à la fois imperméable, c'est elle qui doit confiner la radioactivité, et c'est une roche qui est également assez massive, solide, dans laquelle on peut creuser des galeries de stockage.
Mais quelles sont les critiques? D'abord les opposants, principalement écologistes, qui manifestent régulièrement. Leur principal grief, le projet est irréversible, définitif, ce qui pourrait entraîner une pollution irrémédiable en cas de problème.
Si c'est irréversible et qu'on ne peut pas les atteindre, on enlève tout choix à ceux qui vont venir après, soit de changer de méthode, soit même, s'il y a des accidents souterrains, d'intervenir.
Autre critique, cette fois formulée par l'autorité de sûreté nucléaire, l'ASN. Dans l'état actuel du projet, les risques d'incendie sont trop élevés. 18% des conteneurs de déchets ne sont pas jugés fiables.
Voilà, François-Marie Bréhon, c'est quand même pas rien. Le choix pour les générations futures, l'information pour les générations futures, même de la présence de ces déchets nucléaires dans le sol. Comment on va faire comme ça? Il faut quand même penser aux années qui viennent, non?
La meilleure solution, c'est d'oublier qu'ils sont là. Oh, il faut surtout pas expliquer aux générations futures.
Mais c'est pas égoïste d'oublier qu'ils sont là?
Non, on peut tomber dessus, c'est peut-être un jour, non?
Mais au pire, qu'est-ce qui peut se passer au pire du pire? Supposons, dans 10 000 ans, on a oublié qu'ils sont là, et puis il y a trois pauvres gars qui se disent, tiens, on va aller chercher s'il n'y a pas du charbon dans le sous-sol. Ils vont creuser. Et puis, les trois pauvres gars, ils vont être irradiés. D'accord? Donc, mais c'est tout. C'est tout ce qui va se passer. Donc,
comment vous pouvez savoir que ce sera trois pauvres gars? Enfin, pardon, mais là, du coup, vous êtes en train d'imaginer des choses qui sont absolument pas prouvables.
Non, mais par contre, moi, j'ai très souvent demandé à des gens qui sont opposés à ce projet-là, c'est quoi votre scénario catastrophe sur dans 10 000 ans, une fois qu'ils sont là? Et je n'ai jamais eu la moindre début de description du scénario catastrophe.
Et Marignac?
Oui, enfin, il faut...
Allez, rapidement, parce qu'on a plein de questions.
Non, mais c'est vraiment un débat qu'il ne faut pas caricaturer. Moi, je veux dire, Moi, je fais partie des experts qui considèrent qu'effectivement, en l'état actuel des connaissances, le stockage géologique est à terme la meilleure ou la moins mauvaise option pour gérer ces déchets. Et je pense que précisément, ça n'est pas une position de militant anti-nucléaire. Simplement, on n'a pas aujourd'hui une démonstration suffisante pour engager ce projet. Il reste beaucoup de choses à vérifier, etc. On n'a pas non plus, de toute façon, la possibilité de descendre ces déchets dans un stockage, même s'il était construit, parce qu'ils sont encore trop chauds. Et donc, on a devant nous des dizaines d'années, et même plus. La projection, c'est de finir de remplir ce site de CIGEO en 2150. Et c'est une illustration du poids que fait porter le choix nucléaire sur les générations futures, du risque que crée la possibilité, malheureusement, d'une forme de rupture sociétale qui ne permet plus de gérer ces déchets comme on imagine que les générations futures vont le faire. Et c'est précisément un des points qui fait que le nucléaire aujourd'hui n'est pas soutenable comparé aux énergies renouvelables qui ne posent évidemment pas du tout le même genre de problème.
Allez, une note vocale sur l'appli France Inter.
Bonjour La Terre au Carré, Benoît de Bretagne. Je me pose une question dans ce débat nucléaire versus énergie renouvelable. Dans le cas d'un pic de consommation qu'on peut imaginer en hiver, le nucléaire a quand même un avantage, c'est qu'on peut moduler la production pour pouvoir gérer l'offre et la demande. Pour autant que je sache, c'est pas quelque chose qui est possible avec du renouvelable. S'il n'y a pas de soleil, s'il n'y a pas de vent, on peut pas gérer la production. Et comme on n'est pas bon sur le stockage de l'énergie, dans ce genre de cas de figure, il me semble que le nucléaire a quand même un point fort. Merci à vous, bonne journée.
Voilà, François-Marie Bréhon, argument qu'on entend aussi beaucoup sur l'aspect aléatoire des alternatives.
Absolument, c'est le gros problème, c'est le stockage en fait. Le problème, c'est la variabilité des énergies renouvelables et notre capacité à les stocker. Personnellement, je ne crois pas au développement des énergies renouvelables pour cette raison-là. Mais le jour où on aura inventé effectivement un moyen de stockage suffisamment pas cher et suffisamment efficace, je pourrais changer d'opinion. Je voudrais juste, là aussi, prendre un des 18 points du dernier rapport RTE qui dit les scénarios à très haute part d'énergie renouvelable ou celui nécessitant la prolongation des réacteurs nucléaires existants au-delà de 60 ans impliquent des paris technologiques lourdes pour être au rendez-vous de la neutralité carbone en 2050. Ça veut dire que le 100% ou presque 100% d'énergie renouvelable, il n'y a pas de, théoriquement, c'est pas impossible. Enfin, il n'y a pas de démonstration que c'est pas possible, mais c'est loin d'être gagné.
Morgane Bertrand, alors, juste là-dessus, je réagis. RTE m'a pu m'expliquer aussi
pour l'Obs,
en direct que le pari du 50% nucléaire, enfin, le scénario à 50% nucléaire était aussi un pari. Ça voulait dire qu'on prolongeait au-delà de 60 ans des centrales qui n'avaient pas été construites pour ça, que les EPR2 tenaient leurs promesses. Donc il y a des incertitudes de toutes parts.
Pourquoi, Morgane Bertrand, ce sujet tellement clivant qu'est le nucléaire, pourquoi il n'y a pas un référendum, par exemple, organisé? Pourquoi Emmanuel Macron prend une décision sans consulter la population?
On s'y est pris un peu tard déjà, et en fait le débat portera sur les différents sites d'implantation. Il y aura un débat public pour savoir si les habitants, les riverains sont d'accord pour recevoir ces implantations.
Mais Yves Marignac, c'est quand même un peu gênant, non? Parce que on sent qu'il y a eu quand même une sorte de coming out de Macron sur cette question-là, mais depuis très peu de temps. C'est-à-dire qu'il était très flou au début de son arrivée à l'Élysée. Aujourd'hui, il est beaucoup plus clair sur le recours au nucléaire. Ouais. C'est quand même une surprise aussi pour les électeurs et pour la démocratie.
Il s'est fait élire en 2017 en promettant de respecter l'engagement de réduire la part du nucléaire à 50% en 2025. Il a reporté au cours de son mandat cette échéance à 2035. Il avait pris ces derniers temps l'engagement de ne pas prendre de décision sur des nouveaux EPR ou des nouveaux réacteurs avant la mise en service de l'EPR de Flamanville. On sait ce qu'il en est. Et voilà, c'est le reflet du caractère extrêmement technocratique du fonctionnement du nucléaire, où les décisions sont confisquées. Le fait que le président de la République annonce ça au moment même où RTE met sur la table des scénarios qui montrent que les choix sont possibles, c'est un point essentiel. Je voudrais juste, sur la question du pic de consommation, répondre quand même. Le pic de consommation aujourd'hui lié au chauffage électrique, qui représente environ 30 gigawatts, c'est-à-dire la moitié de la puissance d'un parc nucléaire chaque année, c'est précisément une des raisons pour lesquelles on a du mal à gérer l'évolution de notre système électrique. Et donc, la rénovation thermique des bâtiments pour réduire ce pic est une priorité d'action.
Allez, 2 minutes.
Gérard nous écrit sur Twitter, si on avait utilisé les 20 milliards, par exemple, qu'a coûté l'EPR pour isoler des logements chauffés électriquement, les gens qui les habitent auraient vécu plus confortablement et on n'en serait pas là. Il ajoute, entre le choléra climatique et la peste nucléaire, je choisis d'abord la sobriété. François-Marie Bréhon, vous qui êtes climatologue, est-ce qu'à la fin, finalement, le nucléaire n'est que superficiel par rapport au débat de fond qui est de toute façon de réduire notre consommation d'énergie en France et ailleurs dans le monde?
De toute façon, il faut réduire notre consommation d'énergie. Je pense qu'il y a au moins là-dessus qu'on est d'accord avec Yves Marignac. Maintenant, de là à dire que le débat sur le nucléaire est superficiel, il est peut-être superficiel dans le monde, il ne l'est pas en France.
Et alors justement, sur la construction des futurs EPR, il y a aussi un délai qui est très problématique. Si on veut vraiment être efficace pour la lutte contre le réchauffement climatique, on sait bien que par exemple, ces réacteurs ne pourront pas rentrer en service avant 2035-2040, ce qui est beaucoup trop long finalement pour l'urgence là, à laquelle
on doit
faire
face. Non, ce n'est pas beaucoup trop long si on arrive à prolonger le parc actuellement, ce qui nécessite des investissements.
Mais il y a un parc qui est très vieillissant là aujourd'hui, on le sait bien.
Très vieillissant, enfin en tout cas là aussi, moi je regarde ce que dit l'autorité de sûreté nucléaire, qui avait d'ailleurs dit que la centrale de Fessenheim était tout à fait bonne pour être prolongée. Aujourd'hui, l'autorité de sûreté nucléaire ne dit pas qu'il faut arrêter les centrales de manière urgente. Elle dit que les centrales sont en état de fonctionner et elle demandera à ce qu'elles soient fermées si c'est nécessaire.
Yves Marignac, pour terminer très vite, pour conclure là-dessus.
Le temps, est-ce qu'il y a le temps?
C'est trop long, c'est... Encore une fois, je le redis, compte tenu de l'urgence climatique et compte tenu de la vitesse à laquelle les investissements dans les renouvelables et surtout dans la maîtrise de la consommation fournissent des résultats, toute ressource détourné de ses priorités pour aller vers un programme nucléaire, va contre la priorité climatique.
Morgane Bertrand.
Macron a bien dit qu'il voulait relancer la construction de nouveaux réacteurs, mais aussi continuer le développement des énergies renouvelables. Parce qu'en fait, d'ici 2035, avec le vieillissement du parc actuel, il faudra plus d'énergies renouvelables.
Le retour du nucléaire, en tout cas, c'est dans l'Obs à partir d'aujourd'hui dans les kiosques. Et c'est en partenariat avec la Terre au Carré. Messieurs et messieurs, dames, merci beaucoup d'être venus et merci au message des auditrices et auditeurs.
France Inter présente dans la collection de livres pour enfants Oli, Madeleine et les mots qui fâchent par
Lazarine Pinjot
et le voleur de sapin par
Agnès Martin-Lugan.
Pourquoi Madeleine dit de vilains mots à la place des bons? Et dans le village de César et Gabriel, qui est le mystérieux voleur de sapin? Une histoire et
Oli.
Des contes du soir imaginés par de grands auteurs, magnifiquement illustrés. Une coédition France Inter disponible en librairie.
Enfin, au livre de poche, le best-seller de Yuval Noah Harari, 21 leçons pour le 21e siècle. 21 leçons pour décrypter les enjeux de notre époque et participer à un futur en pleine mutation. 21 leçons pour le 21e siècle, de Yuval Noah Harari, l'auteur de Sapiens, au livre de poche.
Ta-ta-la ! Attention, ce message s'adresse uniquement aux enfants. Amis de la nouvelle génération, écoutez-moi. Trop de films, trop d'écrans, nous sommes trop sollicités. Alors, jeudi, exigeons le repos visuel. Il est temps de s'occuper de nos oreilles. Et justement, Bayard et Radio France lancent l'ensemble Merlin. Des histoires, de la musique, des documentaires. Oh là là, je sens déjà mes oreilles qui sourient.
Merlin, écoutez vos enfants grandir. Commandez l'enceinte Merlin sur hello-merlin.com.
À demain Camille Cronier.
Bon après-midi tout le monde.
Bonjour Fabrice Drouel.
Bonjour Mathieu Vidal.
Alors, on va faire sensible dans un instant.
Si on parlait de Céline, qu'en pensez-vous?
Ah bah écoutez, pourquoi pas.
Eh ben, à tout à l'heure.
Juste après les infos, puisqu'il est 15h.